c'est le moment de retrouver notre émission Portrait de femme. Portrait de femme avec préparé et réalisé par Jacqueline Engrave de Femmes Solidaires. Aujourd'hui, il est question d'une grande femme encore. Madeleine Bresse.
Oui. Oui, bonjour, bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, qui a lieu le 28 mai, nous présentons une femme qui a été la première docteure en médecine française. Elle s'appelle Madeleine Bresse. Elle est née Magdeleine Alexandrine Gébelin le 26 novembre 1842. Donc, elle est contemporaine de Louise Michel, que nous avons vu la semaine dernière avec 12 ans de moins. Elle est née à Bouillargues, dans le Gard, et elle est la première femme donc à accéder aux études de médecine, sans toutefois, on le verra plus loin, avoir le droit de présenter les concours des hôpitaux. Sa vocation est née très tôt quand, à l'âge de 8 ans, elle accompagnait son père à l'hôpital de Nîmes. Son père qui faisait des travaux, pas des travaux de médecine parce qu'il était charron, mais d'autres travaux. Et elle assista ainsi le service du médecin en préparant des tisanes, des bouillons et des cataplasmes. C'est ce monde-là qui l'a séduite. En 1857, à l'âge de 15 ans, on la marie à un conducteur d'autobus, Adrien Stéphane Bresse. C'est pour ça qu'elle s'appelle Madeleine Bresse. Et elle a 3 enfants. À 19 ans, en 1866, le mariage n'ayant pas eu raison de sa vocation, elle se présente devant le doyen de la faculté de médecine, le professeur Wurtz, pour lui demander de préparer le diplôme de médecine. Il se trouve que Wurtz est favorable aux femmes et il lui promet de l'accueillir si elle obtient d'abord son bac. C'est une barrière explicite. Le bac est devenu accessible aux femmes en 1861. Mais les femmes travaillent leur bac en solitaire, car les écoles ne les préparent pas à ce diplôme. Pour ce faire, Madeleine Bresse obtient le consentement de son mari. Alors, en effet, à cette époque, il n'y a pas d'études possibles pour les femmes sans ce consentement. Le droit français considère les femmes mariées comme des irresponsables, des mineurs à vie au sens juridique du terme. On dit aussi, au sens juridique du terme, des incapables majeurs. Donc, 3 ans plus tard, elle a son bac. Puis, elle prépare sa thèse de doctorat, soutenue le 3 juin 1875, sur le sujet, j'ouvre les guillemets, de la mamelle et de l'allaitement. Bon, c'est le titre de l'époque. Donc, c'est une thèse très remarquée en France et à l'étranger. Elle devient ainsi la première Française docteur en médecine. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, elle fut nommée interne provisoire des hôpitaux pour notamment remplacer les médecins partis au front à la guerre. Pendant les événements de la Commune, que nous avons vu la semaine dernière, elle reste à son poste et se fait remarquer par son zèle et toutes ses compétences. Forte des certificats élogieux produits à son égard, elle demande donc à présenter le concours de l'externat d'octobre 1871, mais là, elle se heurte au refus du directeur des hôpitaux de l'assistance publique en décembre 1871 pour la raison suivante. Voici en effet ce que disait le docteur Henri Montagnier en 1868 dans la Gazette des hôpitaux. Je cite « Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes. Lorsque la femme en serait arrivée là, je me le demande, que resterait-il de la femme ? Un être qui ne serait plus ni une jeune fille, ni une femme, ni une épouse, ni une mère. » Voilà pourquoi on lui a refusé le concours de l'externat. Donc le concours de l'externat ne sera ouvert aux femmes qu'en 1882 et l'internat en 1886. Donc rattrapée par son entre guillemets destin de femme, Madeleine Bresse renonce. Elle est veuve avec 3 enfants à charge. Elle s'installe en ville, rue Boissy d'Anglas, et se spécialise dans la relation mère-bébé, dans l'hygiène des jeunes enfants, se créant ainsi une riche clientèle bourgeoise. Bientôt, elle enseigne ses matières sous forme de conférences, d'échanges, aux directrices, au personnel des crèches, des écoles maternelles et des garderies des 20 arrondissements de Paris. En 1885, avec son argent, elle fonde même sa propre crèche, 83 rue Nollet, dans le quartier des Batignolles. C'est une crèche où sont soignés et gardés gratuitement les enfants jusqu'à 3 ans. on voudrait bien avoir aujourd'hui des crèches gratuites, ce que nous n'avons pas. Donc cette crèche est un succès et elle est notamment visitée par Marie-Louise Loubet, l'épouse du président de la République de l'époque. En 1891, comme une forme de reconnaissance de son action et de ses compétences, le ministre de l'Intérieur la missionne pour aller étudier en Suisse l'organisation des crèches et des asiles. Elle dirige aussi le journal Hygiène de la femme et écrit plusieurs ouvrages de puériculture. Pourtant, bien des années plus tard, elle meurt, oubliée, à 79 ans, presque aveugle, dans la solitude et la pauvreté, le 30 novembre 1821 à Montrouge. Cependant, des établissements de soins, des écoles, des rues portent son nom. À Paris, Montpellier, Perpignan, Bobigny, Aubervilliers, à Caen, à Nantes, Lille, Romans. Et récemment, en 2020, un bâtiment des spécialités médicales du centre hospitalier du Mans a été inauguré à son nom. Donc, on peut dire que si elle reste inconnue du grand public, moi-même, avant de la présenter, je ne la connaissais pas, on peut penser qu'elle est connue du corps médical et du corps enseignant. Première docteur en médecine en France, donc au XIXe siècle. On pourrait se dire, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'accès aux études des femmes, aux études médicales des femmes ?
Il y a un peu de progrès quand
bien
même.
Bien sûr, bien sûr. Alors la profession de médecin s'est même fortement féminisée. Les femmes sont 60% à accéder à la deuxième année d'études. Mais là aussi, comme pour les autres métiers, dès que l'on monte dans les instances dirigeantes des établissements de santé, je ne parle pas là de la médecine libérale, bien sûr, elles disparaissent, comme dans tous les métiers, même les plus féminisés, par exemple chez les enseignantes. On constate une séparation dans les spécialités en fonction du sexe aussi. Il y a des spécialités plus masculines, comme la réanimation, la chirurgie, où les femmes sont sous-représentées. Et par contre, elles sont surreprésentées en pédiatrie, en dermatologie par exemple, où elles sont 80%. Mais même dans ces domaines, les chefs de service sont des hommes. Alors, pourquoi ? Que se passe-t-il ? Bon, c'est toujours la même chose. Le facteur bloquant est le même que dans les autres métiers, la maternité, la famille. Elles disent « Je dois choisir entre la carrière ou les enfants. » Et on le leur fait bien voir. Jamais les hommes n'ont à faire ce choix cornélien. Aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. On peut dire qu'en ce qui concerne l'accès aux soins, les femmes sont les oubliées de la santé. Elles ne sont pas des sujets de recherche. Elles sont exclues des essais, des tests qui sont faits sur les sujets masculins. À cause de cela, les femmes sont deux fois plus sujettes aux effets secondaires des médicaments que les hommes. C'est l'Académie de médecine qui le dit en 2016. Et par exemple, l'infarctus du myocarde est plus connu pour être une maladie d'homme. Chez les femmes, les cardiologues suspectent davantage une crise d'angoisse. Les symptômes ne sont pas les mêmes que chez les hommes, d'où un diagnostic et une prise en charge retardée. Or, l'accident cardiaque a triplé ces dernières années chez les femmes. De plus, les femmes téléphonent aux urgences, ça a été mesuré 15 minutes plus tard que les hommes. Parce qu'elles ont intimement intégré cette idée que pour elles, j'ouvre les guillemets, c'est le travail et la famille avant ma santé. Elles ne s'écoutent pas, elles sous-estiment les symptômes sournois et l'essoufflement. Donc en conclusion, on peut dire que la sociologue Monique Mambrado soulevait en 2006 que les femmes sont mises de côté dans l'analyse et la construction des programmes nationaux de lutte contre les grands problèmes de santé publique comme le sida, l'alcoolisme, les toxicomanies ou les maladies cardiovasculaires, voire les cancers, puisqu'elles ne sont considérées qu'à travers des cancers spécifiques à leur sexe. Comme si elles n'étaient pas exposées aux autres cancers, alors que, comme les hommes, elles ont un cœur, un foie, des poumons, un cerveau, un intestin. Et la docteure Catherine Vidal en conclut que la médecine, dans sa formation et dans sa pratique, reste fortement influencée par les préjugés sexistes. L'étiquette d'hystérie, de nerf fragile, empoisonne encore le regard des médecins et les manuels de médecine continuent aujourd'hui à véhiculer ces préjugés. Bref, dit-elle, les femmes sont sous-dépistées, sous-traitées, sous-évaluées par rapport aux hommes. Voilà, en ce domaine aussi, il reste beaucoup à faire pour défendre la cause des filles et des femmes.
On voit bien, Jacqueline, que également le problème de l'endométriose, il a fallu des années et des années pour que ce soit enfin reconnu aussi comme une maladie et que ce n'était pas uniquement les périodes des règles difficiles et l'hystérie des femmes qui pouvaient être...
Exactement, voilà. Exactement. Donc on le prend en compte encore aujourd'hui, mais c'est diagnostiqué toujours très tardivement. Mais bon, on essaye d'avancer.
Merci Jacqueline, à la semaine prochaine.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.